Auguste Blondel, L'âme des choses, Louise. Au-dessus de la pharmacie de Bolsec et sur la place du marché, s'ouvraient les fenêtres du salon et de nos chambres à coucher. Le soleil pénétrait gaiement dans la rue élargie et, dès le matin, faisait briller mille escarboucles dans les locaux rouges et bleus de notre voisin. Qu'il me semblait beau, ces locaux, et que de fois ils ont excité mon envie lorsque, petit gamin, je revenais de l'école, le sac au dos et les mains illustrées de taches d'encre. Bolsec, l'apothicaire, ses lunettes sur le nez, trônait gravement derrière le comptoir et me faisait l'effet d'être à la fois terrible et mystérieux, avec ses sourcils en broussaille et sa voix de stentor. Mais le mystère redoublait lorsqu'on entrait dans l'allée de la maison et dans la cour où se trouvait l'escalier. Sur la cour s'ouvrait la porte du laboratoire. L'on apercevait, dans la pénombre, des choses étranges et inquiétantes. Des alambics et des cornues, des chaudières de cuivre, et des fioles de toutes les grandeurs et de toutes les formes. Parfois, l'on distinguait la silhouette du pharmacien, penché sur quelque creuse rougie. Et ce n'était jamais sans un sentiment de crainte que je franchissais les dernières marches de l'escalier, devant la porte du sanctuaire. Heureusement que la fenêtre de notre cuisine donnait aussi sur la cour, et que le sourire de Louise illuminait cet endroit lugubre. Il fallait avoir bon caractère pour vivre dans la cuisine de Louise. Le jour y pénétrait à peine, et l'horizon était borné de toutes parts par les grands murs noirs et humides des maisons attenantes. Point de ciel, pas la plus petite parcelle d'azur découpée par les toits, point de fenêtre en face de celle-là, et partant, point de voisin avec qui jaser. Point de verdure, excepté quelques touffes de capillaires et de giroflées, dont les graines apportées par le vent ou par les oiseaux avaient germé dans les fissures des murailles, et qui semblaient frêles et pâles, frissonner au souffle glacé de cette espèce de puits. Au milieu de cette ombre, au fond de cette prison, et dans cette solitude, jetez une étincelle de gaieté, un chaud et bien fait rayon de soleil, et vous aurez l'effet produit par Louise dans la cuisine de mes parents. Elle était arrivée à 15 ans de son village, encore tout embarrassée de sa robe longue et de ses sabots. Et la petite orpheline avait trouvé chez nous une famille et des amis. Mon père était receveur de l'enregistrement. Lors de son mariage, sa position ne lui permettait pas de faire bien grande figure. Louise représentait à elle seule tout le personnel de M. Lastailly. Mais elle abattait plus de besogne que 10 domestiques dans une grande maison. La cuisine était comme sa personne, proprette et appétissante, et si d'aventure il avait pu se glisser dans la cour un rayon de soleil gros comme une tête d'épingle, il ne serait sorti qu'après une longue visite, tant il aurait eu de plaisir à se mirer dans les mailles des assiettes, dans les cuivres des casseroles, et à faire étinceler les 1000 facettes des verres et des carafes. Il aurait caressé aussi les 2 ou 3 vases de fleurs posées sur la croisée et qui faisaient tous leurs efforts pour croître et s'épanouir, sans y réussir toujours. Je revois, dans mes souvenirs d'enfance, la jeune fille, alerte et légère, courant de ci de là, joyeuse, accomplissant sa tâche en chantant. Et elle me la donnait en exemple. C'était le beau temps alors. Louise avait 19 ans environ, et moi j'en avais 4. Un jour, on me dit qu'il allait m'arriver un compagnon de jeu, un frère, et l'on me présenta peu après un petit être emmailloté dont on ne voyait que le bout du nez. Il criait beaucoup, et je trouvais bien étonnant qu'il ne pût ni causer ni courir avec moi. Mais le moment vint où je le vis regarder et sourire, et je l'aimai de toutes mes forces, avec un certain sentiment de commisération pour sa faiblesse et de haute admiration pour mes divers talents. Les bonnes heures que nous passions dans le salon avec ma mère et ma chère petite poupée vivante, le petit bébé qui s'ébattait dans une corbeille. Que de superbes batailles livrées par mes soldats de plomb. Et plus tard, quelle cavalcade folle à travers la chambre. Et puis, quand les joujoux ne nous amusaient plus, je demandais la permission de monter sur une chaise pour voir la rue et la joyeuse animation de la foule qui circulait au soleil. Mais je crois vraiment que nous préférions encore la cuisine, malgré son obscurité. Je ne saurais dire toutes les inventions de Louise pour nous divertir. Je ne me souviens que d'une chose, c'est que les heures passaient comme des minutes dans cette chambre froide et désolée. Et c'était vraiment une grande ressource pour ma mère, souvent malade et fatiguée par le tumulte des enfants. Louise s'occupait de tout, fricotant, balayant et trouvant moyen en même temps de nous conter des histoires de son pays. Elle nous parlait de la maison de ses parents et de l'étable qui abritait une belle vache blanche et noire qu'on appelait Brunette. Tous ces détails me sont restés si présents que je crois revoir encore la cour enfumée et, tout près de la fenêtre, Louise qui tricote tout en causant. Notre bonheur était au comble quand on nous confiait à elle le dimanche après-midi pour faire une promenade. Quelle course dans les champs! Quelles égratignures dans les haies, quelles gerbes de fleurs rapportées à la maison. Un jour que nous allions partir pour une de nos excursions favorites, un pas se fit entendre dans l'escalier. On sonna. Louise ouvrit la porte et devint rose comme une églantine. « C'est Monsieur Jean, un pays à moi, » dit-elle. Et elle fit entrer un beau garçon de 24 à 25 ans. « Il m'apporte des nouvelles de chez nous. » Ce jour-là, nous fûmes quatre à la promenade. Et je m'amusais beaucoup moins que d'habitude. L'intrus ne tarda pas à se faire pardonner ses visites. Nul ne savait si bien que lui confectionner des flûtes avec des roseaux et des sifflets avec l'écorce des saules. Nul ne se montrait plus adroit pour réparer les jouets endommagés ou en fabriquer de nouveaux. Jean servait de factotum au père Bolsec, nettoyait la pharmacie et le laboratoire, clouait et déclouait des caisses dans la cour, et son sifflet joyeux se mariait aux chansons de Louise. Ils étaient bien faits pour s'entendre, ces deux amis du village que le hasard réunissait dans la même maison. Le soir venu, après le travail de la journée, on ne sait comment la jeune fille se trouvait assise vers la fenêtre ouverte, précisément à l'heure où Jean remontait l'escalier pour rentrer dans sa chambre sous les toits. Impossible de passer comme un manant, sans dire un mot d'amitié, sans parler des événements de la journée, de la pluie et du beau temps. Et puis, l'on ne saurait croire combien l'employé de M. Bolsec était complaisant. Il avait toujours mille bons prétextes pour frapper à la porte. Tantôt pour apporter le journal que le facteur lui avait remis, tantôt pour lire une lettre qui donnait des nouvelles du village et qui parlait des chers absents. Ou bien encore, c'était un frais bouquet de fleurs qui s'épanouissait dans un vase à la fenêtre et venait on ne sait d'où. Tous ces détails, ma mémoire les a évoqués plus tard. Mais ils ne m'étonnaient pas au moment même. Je me rappelle pourtant que lorsque mon frère et moi nous parlions de l'ami Jean à mes parents, la pauvre Louise passait par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle avait refusé net de recevoir ses visites jusqu'au jour où il déclara solennellement à ma mère qu'il aimait sa payse de tout son cœur et qu'il l'avait demandée en mariage. La jeune fille fit ses conditions. Elle voulait bien se marier, mais dans quelques années seulement, lorsqu'avec les écus loyalement gagnés, on pourrait monter le ménage. Que leur importait d'attendre, du reste? Ils étaient au printemps de la vie, ils avaient l'avenir immense devant eux. Louise tenait aussi à se familiariser avec l'idée de quitter ma mère et ses chers petits, comme elle nous appelait, mon frère et moi. La vie reprit donc son train accoutumé, et, sauf les chansons et le joyeux sifflet qui se répondaient parfois dans la cour, et certaines visites de gens le dimanche après-midi, on ne se serait douté d'aucun changement dans la maison. Et cependant, la cour n'était plus la même. Les giroflées, épanouies dans les fentes du vieux mur, répandaient un plus doux parfum dans les airs. Il semblait que le soleil eût découvert un chemin jusqu'alors inconnu pour envoyer quelques-unes de ses flèches d'or sur les fleurs entr'ouvertes. Je crois même qu'un papillon égaré vint un beau matin se poser sur leur sein, et sur ses ailes, il apportait comme une bonne odeur de campagne, de bois, d'herbes fraîchement coupées, une bonne odeur de printemps. Non, certes, la cour n'était plus la même. Comme un oiseau de proie, la mort s'abattit soudain sur notre nid et emporta notre mère en quelques jours. Elle sentit que l'heure fatale avait sonné. Elle nous serra dans ses bras follement, passionnément, puis nous rendit à mon père. « Louise, dit-elle de sa voix expirante, vous ne délaisserez pas mon mari et ses pauvres orphelins, vous me le promettez. » La jeune fille inclina la tête, incapable de répondre. Mais son regard était plus éloquent que toutes les promesses qui sortent d'une bouche humaine. Elle l'a bien tenu, son engagement. Après les premiers moments de chagrin si poignants pour les enfants, plus déchirants même que pour les grandes personnes, car il y a dans les douleurs d'enfants une intensité de sensation, une profondeur de douleur qui s'émousse ou s'atténue plus tard. Je me retrouve dans la cuisine sombre avec mon frère, jouant auprès de Louise. Mon père, surchargé d'affaires, accablé par le deuil, ne s'occupait que peu de nous. Ce n'était plus seulement le dimanche, mais le jeudi que nous faisions des promenades, bien loin de la ville et des routes poudreuses, dans les petits sentiers bordés de haies vertes. L'ami Jean nous accompagnait parfois, mais ses visites se faisaient un peu plus rares. Un jour, je l'entendis qui se plaignait de la tristesse de Louise. Certes, ce n'était plus la jeune fille si gaie d'autrefois. La vie a le secret de voiler de nuages les ciels les plus radieux. Elle riait encore, pourtant, mais son rire perlé s'était fait plus tendre. On y sentait comme le souvenir des larmes versées. Elle avait, en nous parlant, des intonations de voix presque maternelles et qui nous enveloppaient comme une caresse. À l'ouïe des plaintes de Jean, « Vous ne pensez plus qu'à ses enfants, et moi je ne compte pour rien. » Louise sentit son cœur se gonfler. Je n'entendis pas ce qu'elle répondit, mais le beau parleur baissa la tête d'un air confus. Dès ce moment, je n'aimais plus Jean. Il avait fait pleurer Louise. Du reste, il s'occupait moins de nous. Il venait le soir quelquefois en passant, mais sa visite était courte et son attitude embarrassée. Pourquoi donc son arrivée devenait-elle un signe de gêne et d'ennui? Et cependant, lorsque la soirée s'écoulait sans qu'il apparût, pourquoi la figure de ma bonne s'attristait-elle, sous l'influence d'un chagrin secret? C'était là bien des gros problèmes pour une intelligence d'enfant. Un matin, de grands éclats de voix retentirent dans la cour. Le père Bolzec, debout sur le seuil du laboratoire, tançait vertement son domestique. Il l'accusait de vagabondage, d'inexactitude, et le menaçait de le renvoyer dans son village. Une réponse insolente de Jean s'ensuivit et la porte de la pharmacie se ferma. Je me trouvais à la fenêtre en ce moment, et je fus seul témoin de cette scène. Deux jours après, grande fut ma surprise en voyant dans la cour un inconnu qui faisait la besogne de Jean, clouait et déclouait les caisses et balayait l'escalier. Depuis lors, l'ami et le fiancé de Louise ne reparut plus chez nous. La cuisine ne retentit plus de chansons, ni la cour de sifflets joyeux. Mais la gardienne des deux orphelins leur resta fidèle, dans son complet et absolu dévouement. Une seule fois, quelques mois après le départ de Jean, nous le rencontrâmes, un dimanche soir, au retour d'une promenade. Je vois encore cette route pleine de poussière que dorait le soleil couchant. C'était un tumulte de voix, une cohue indescriptible. Des voitures, des chevaux se croisaient en tous sens. On entendait des rires et des chants dans les tonnelles de verdure des cabarets du faubourg. Une bande d'hommes avinés et de femmes en toilette criarde passa à nos côtés en nous éclaboussant de sa gaieté grossière et bruyante. Au milieu d'eux, je crus reconnaître Jean. Mais ce n'était plus le Jean d'autrefois. Cet homme a la démarche chancelante et l'air effronté. Cependant, je serrai plus fort la main de Louise et je la sentis tressaillir. N'est-ce pas Jean ? Lui demandai-je presque à voix basse, car cet homme me faisait peur. « Tu as cru le reconnaître, comme moi, » dit-elle d'un ton brusque. « Serait-il possible, si peu de temps ?» Elle n'acheva pas sa phrase, mais s'élança en avant et rejoignit la bande des promeneurs qui nous avaient devancés. Elle voulait voir, s'assurer. Cet homme, qui chantait une chanson à boire, s'arrêta un instant en apercevant Louise, puis, d'un air de bravade, il saisit le bras d'une jeune fille qui marchait à ses côtés et reprit le refrain de sa chanson. C'est ainsi qu'il passa auprès de nous, sans baisser les yeux, mais en regardant sa compagne avec la tendresse repoussante d'un ivrogne. Louise resta clouée au sol, immobile et muette, tandis que le couple passait. Puis, s'adressant à moi, « Tu vois bien que ce n'est pas lui, » dit-elle d'une voix sourde. « Il ne nous a pas reconnus. Viens, rentrons. » Mais elle ne joignit pas l'action à la parole, et pendant un instant encore, elle sembla suivre la vision disparue dans la brume d'or du crépuscule. Et depuis, elle n'a plus prononcé le nom de Jean. Souvent hanté ma mémoire. Il y a bien longtemps que la pharmacie Bolzec n'existe plus et que les bocaux de la devanture ont été remplacés par l'élégant étalage d'une marchande de mode. Mon père, au décès d'un cousin éloigné, est entré en possession d'une belle fortune et nous avons quitté la maison de la rue du Marché pour un logis plus ensoleillé. Louise nous a suivis. Elle a été pour mon frère et moi une véritable mère, attentive, éclairée, bienveillante. Mais, quoi qu'elle fasse partie de la famille, elle n'a jamais voulu abandonner sa place de cuisinière. Après la mort de mon père, et lorsque je me suis mariée, elle a suivi ma jeune femme dans notre nouvelle demeure et nous a servi pendant 20 ans encore avec le même dévouement. Mais comme elle n'avait épargné ni ses veilles, ni sa peine, elle s'est usée. Ses cheveux ont blanchi, son dos s'est courbé. Elle a conservé pourtant, malgré ses 60 ans, son sourire caressant et ses beaux yeux limpides. Lorsque, l'an passé, enfin, je vis qu'elle ne pouvait plus continuer son service, je l'ai priée de rester auprès de nous, comme une vieille amie. « Non, monsieur, répondit-elle, ce n'est pas la place de la pauvre Louise de vous importuner ainsi. Je vois bien que je ne puis plus être bonne à rien et que mes yeux s'obscurcissent. Mais, ici, sa voix trembla. Peut-être que monsieur me permettra de louer une chambre, à ma guise, pas trop loin d'ici, pour y finir ma vie en paix. » 2 jours après, son choix était fait. Et j'ai été voir Louise dans sa nouvelle demeure. Quelle émotion m'a serré la gorge lorsqu'elle m'a conduit devant le chemin de la rue du marché et que je suis entrée sur ses pas dans la cuisine d'autrefois. La cour n'a pas changé. Elle est toujours humide et glacée. Aussi, j'ai objecté à Louise qu'elle allait prendre des rhumatismes, qu'il lui fallait au moins choisir une chambre sur la rue, au soleil. Rien n'a pu la faire changer d'idée. Je vais souvent la voir, et j'envoie mes enfants chez elle. Elle les adore, et les amuse comme elle m'a amusée jadis. Ses yeux se sont affaiblis ces derniers temps, mais son visage respire le calme et la sérénité. Elle est assise auprès de la fenêtre ouverte, quand même les soirées commencent à devenir froides. Les giroflées du mur se sont flétries et le vent d'automne fait frissonner leurs tiges sèches. Mais elle ne peut plus les voir. Elle sait seulement que c'est dans cette chambre, sur cette cour, que s'est passé son humble roman de jeune fille. C'est là qu'elle a aimé, qu'elle a été heureuse, bien heureuse. Et lorsqu'un pas résonne dans l'escalier, ou qu'à la tombée de la nuit on sonne, elle tressaille, laisse tomber son tricot sur ses genoux et, oubliant ses 60 ans, elle croit que Jean, son bien-aimé Jean, va entrer dans la cuisine, les regards pleins d'amour, les mains pleines de fleurs des champs.